1 Corinthiens, chapitre 12, verset 1, en ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, mes frères, que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas, mes frères, que vous soyez dans l'ignorance. Alors, qu'est-ce que c'est ces réalités spirituelles? Eh bien, on oppose souvent le spirituel et le matériel. Les choses spirituelles sont un petit peu les choses qui échappent un petit peu aux lois toutes simples de la physique que nous connaissons. Et donc, les choses spirituelles, ça manifeste ce qui est relève de la manifestation du Dieu transcendant. Et dans l'Église, donc, on est concerné, puisqu'on sert le Dieu vivant et vrai. Et donc là, l'apôtre, il veut qu'on soit instruit sur ces choses-là. Et on va s'instruire ce matin, donc. Est-ce que, alors, le passage que nous allons lire ce matin est un petit peu normatif, c'est-à-dire il s'applique à toutes les églises de tous les temps, et il va parler de choses qui sont très générales et donc qui sont valables encore aujourd'hui. Donc ce ne sera pas la peine de trop se rapprocher du contexte. On laissera le contexte pour plus tard, chapitre 14. Et donc on va lire le passage de ce matin, puisqu'on va s'arrêter au verset 11. Vous savez, verset 2, vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers des idoles muettes. C'est pourquoi je vous déclare, personne, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit ». Personne ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues, mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Seigneur, merci pour ta parole ce matin, merci pour ces instructions sur les choses spirituelles, les manifestations spirituelles que tu veux nous donner à travers ta parole ce matin. Aide-moi, Seigneur, à bien parler, à ce que ce soit intéressant et compréhensible, pas ennuyant, Seigneur. Et surtout, Seigneur, que ça te serve, que tu puisses faire du bien à travers ta parole, Seigneur. Par Jésus, amen. Alors, j'ai résumé ce passage avec une phrase. On fait aussi du français. Hein. Quand on fait du français, il faut faire des résumés à des moments donnés. Et donc, j'ai essayé de faire le résumé de ce passage en une phrase, comme on fait à l'école. Dans l'Église, Dieu se manifeste et œuvre par des dons utiles et variés que le Saint-Esprit accorde à chacun. Dans l'Église, donc, Dieu se manifeste et il œuvre par les dons utiles et variés, différents, que le Saint-Esprit accorde à chacun. Alors, vous avez compris, il parle des dons du Saint-Esprit. Et donc, Dieu se manifeste à travers ces dons du Saint-Esprit. Il dit ici qu'avant, dans le passé, les Corinthiens étaient entraînés vers des idoles muettes. Des idoles muettes qui ne parlaient pas. Et nous aussi, on peut être entraînés vers toutes choses différentes. Qu'est-ce que c'est une idole? Une idole, c'est quelque chose qui va prendre la place de Dieu, tout simplement. il va prendre la place de Dieu, qui revient à Dieu dans nos vies, et on va faire confiance à cette idole, et on va la servir, et on va lui donner beaucoup de notre argent, ou de ce que nous avons, ou... et il y a de notre énergie, de notre vie, de notre temps, et il y a des idoles. Jésus a dit qu'il y en avait une qui s'appelait l'argent, les richesses, le désir de rechercher les richesses, puisque l'argent en lui-même, il est neutre. Mais on peut, à travers l'argent, vouloir remplacer Dieu, lui faire confiance, s'appuyer sur lui pour rechercher notre sécurité. Quand on a des besoins, si l'argent est là, et on vénère l'argent de cette façon-là. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça aujourd'hui, mais ce sont des idoles muettes. Et on va voir également une autre forme d'idole qu'il y avait du temps du prophète Élie dans l'Ancien Testament. Akab, c'est un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament. Un roi. Et là, c'était une idole plutôt spirituelle qui s'était installée en Israël. Alors il y avait le roi Akab, c'était un roi qui s'était fait alliance avec un autre pays, les Phéniciens, qui étaient, c'est un mariage politique en quelque sorte, c'était une alliance qu'il avait fait avec un royaume d'à côté, mais il avait épousé une femme qui était tristement célèbre et donc qui s'appelait Jézabel. Et cette femme, donc, elle était idolâtre, elle avait une idole qui s'appelait Baal, et elle s'est débrouillée pour petit à petit chasser tous les prophètes de l'Éternel pour qu'il n'y ait dans le royaume d'Israël que des prophètes de Baal. Et c'est une dame donc qui a très mauvaise réputation dans la parole de Dieu. Mais le prophète, Dieu a envoyé le prophète Élie devant son peuple. Et Élie avait cette mission que de révéler le Dieu vivant et vrai, par opposition au prophète de Baal. Lui était prophète de l'Éternel. Et voilà ce qu'on lit. Donc, il avait convoqué tous les prophètes et tout le peuple au mont Carmel. C'est une histoire très célèbre. 1 Roi 18. Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent en morceaux, qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu, et moi je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. » Et il s'agissait donc de 2 holocaustes que chacun devait préparer, le prophète Élie de l'Éternel d'un côté et les 450 prophètes de Baal de l'autre côté, chacun son autel, chacun son taureau. Et Élie ajoute, « Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Donc un vrai défi, hein. Voilà, 2 holocaustes, 2 offrandes, et le Dieu qui allait mettre le feu sur l'autel, sans intervention humaine, celui-là, ce serait le vrai Dieu, et l'autre, ce serait le faux Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le, les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna, ils le préparèrent, ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, « Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moquait d'eux et dit, « Crie à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, il se réveillera. » Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisaient jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Et tout le peuple s'approcha de lui. Et donc, Élie rétablit l'autel de l'Éternel et il invoque le Dieu. Et là, le feu du ciel va descendre et va embraser l'Holocauste. Et c'est la différence entre le Dieu vivant et les idoles. Et donc, il y a une différence fondamentale entre tous les activités spirituelles qui peuvent y avoir dans le monde et l'Église de Jésus. Dans l'Église, Dieu parle, Dieu agit et Dieu répond. Et que font les gens les dimanches matins? Eh bien, ils vont chacun à leurs activités, mais il faut bien savoir que ce sont toutes les idoles, c'est-à-dire tout ce en quoi on peut placer notre confiance, ne parle pas, ne répond pas. Seul Dieu se manifeste dans son Église par son Esprit. Et donc, c'est un petit peu ce que dit notre verset 2 ici. Vous savez combien, lorsque vous étiez étranger au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes, vers des idoles muettes. Mais dans l'Église, la manifestation du Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ. Je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit ». Et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit, si ce n'est par le Saint-Esprit. Avant de partir dans le ciel, le passage qu'a lu Jackie tout à l'heure, Jésus a notamment ajouté au chapitre d'après, quand le Consolateur, il parlait de l'Esprit Saint, sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira toute la vérité, il me glorifiera, car il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alors c'est une indication de ce que fait le Saint-Esprit quand il est, quand on est ici tous ensemble dans l'Église, le Saint-Esprit, il va mettre en avant Jésus-Christ. Il ne va pas se mettre en avant lui-même. Il va glorifier Jésus-Christ. Et c'est le et l'apôtre dit ici, c'est seulement par la présence de l'Esprit-Saint dans ses enfants que l'on peut dire Jésus est le Seigneur. C'est l'Esprit-Saint qui permet de faire cette déclaration. Et donc, on sait, c'est une façon de voir comment ce que va faire le Saint-Esprit va toujours faire quelque chose pour que le nom de Jésus soit connu et soit honoré. Pourquoi c'est important de savoir ça? Eh bien, parce que nous avons des ennemis, et le Seigneur a un rival qui s'appelle l'Antéchrist, qui s'appelle Satan, qui s'appelle le diable. Et lui aussi est une force spirituelle. Et lui aussi peut se manifester de façon surnaturelle, de façon qui peut nous impressionner, qui peut être impressionnante. Et on peut dire, les gens peuvent vouloir croire, voilà, Dieu est là, alors que ce n'est pas Dieu, c'est l'ennemi des hommes qui est là. Et comment on peut s'en apercevoir? Eh bien, personne, par l'Esprit de Dieu, ne peut dire « Jésus est maudit ». Et celui seul qui peut dire ça, c'est par l'Esprit de Dieu. Et donc, ça permet de voir la différence. Tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, dit l'apôtre Jean dans sa lettre 1 Jean 4, 2. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venant en chair, est de Dieu. Donc, il y a quelque chose qui est important ici de savoir par rapport à l'Église et à la manifestation du Saint-Esprit. Versets 4 à 6, il y a différents dons, mais le même Esprit, différents services, mais le même Seigneur, différents actes, mais c'est le même Dieu qui accomplit tout en tous. Tous les dons spirituels, ils viennent du même esprit. Ils sont tous différents, mais ils viennent du même esprit. Comme il y a tellement de façons différentes de servir le Seigneur, il y a diversité de dons que le Saint-Esprit accorde. Et tout ça, bien sûr, cela permet l'accomplissement de toutes ces choses qui se passent, permettent l'accomplissement de la volonté de Dieu lui-même. Donc dans l'Église, le Seigneur glorifie toujours et seulement Jésus-Christ. Les manifestations spirituelles sont données, ce sont des dons, c'est gracieux, c'est gratuit par le Saint-Esprit et c'est varié. Ce sont des choses qui sont variées, qui sont différentes, qui ne sont pas toutes identiques. Et si on continue donc notre lecture maintenant, de versets 7 à 10. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Donc, les dons du Saint-Esprit, ils sont, on apprend qu'ils sont utiles pour le bien de tous, avons-nous lu, et puis ils sont très variés, ils sont très, très différents. Alors, toutes ces manifestations, tout ce qu'il peut se passer dans l'Église, tout ça, ça doit, quand c'est le Saint-Esprit qui agit, eh bien c'est pour le bien commun, c'est pour le bien de tous. Alors, on peut dire, mais si Dieu nous donne des choses à ses enfants, ben c'est toujours bon. Dieu donne toujours, le Saint-Esprit va toujours donner de bonnes choses. C'est vrai. Alors, forcément, ce sera utile, c'est, si c'est bon, c'est utile. On pourrait dire oui rapidement, mais c'est pas si simple, parce qu'il s'agit bien de discerner ceux qui, les manifestations spirituelles, les choses extraordinaires qui peuvent se passer dans une église, il s'agit bien de savoir si est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça vient de notre ennemi, des forces qui sont nos ennemis. Satan et tous ses serviteurs. Donc il y a une question de savoir, et donc savoir si c'est utile ou pas, ça va nous permettre de voir si on voit des choses qui se passent dans l'Église qui sont qu'on voit que ça a pas de bonnes choses, ça a pas de bons résultats. Eh ben on pourra dire bah ça vient pas de Dieu, ça vient pas du Saint-Esprit. Un petit peu plus loin, on verra que l'apôtre également, il nous demande de rechercher ce qui est de meilleur. Et donc, rechercher les meilleurs dons. Et donc, quand Dieu veut nous donner, le Saint-Esprit veut nous donner des dons spirituels, mais on est aussi encouragé à les rechercher. Et finalement, comment on peut savoir si c'est l'Esprit, Saint-Esprit qui donne ou pas? Eh bien, il faut voir à quoi servent ces dons, quel est leur objectif. Pour savoir quelle utilité ils ont, il faut savoir si l'objectif final, pourquoi le Saint-Esprit donne tel et tel don dans son Église. Alors, à la vie, l'objectif, c'est de faire connaître Jésus-Christ, là, au verset 2, en opposition aux idoles muettes. Donc les gens se détachent des idoles muettes, chose qui Dieu n'est pas là, pour qu'ils s'attachent là où est Dieu, là où il est à l'œuvre et là où il se manifeste vraiment. Donc de faire connaître Jésus-Christ, de glorifier Jésus-Christ, verset 3, ça c'est un autre objectif. Personne, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est maudit, mais au contraire, celui qui dit Jésus est Seigneur, c'est par le Saint-Esprit. Donc, glorifier Jésus-Christ et servir le Seigneur Jésus également. Les dons vont nous permettre de le servir, de servir le Seigneur. Il a dit lui-même avant de partir, « Allez, faites de toutes les nations des disciples », Matthieu 28, à la fin du chapitre 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. » Donc, toutes ces choses-là, tous les dons que le Saint-Esprit va donner à son Église, ça va être pour servir le Seigneur, pour faire progresser le nom de Jésus sur la terre, pour que les gens puissent être délivrés des idoles. Après, il donne l'exemple des dons. Alors, il y a les paroles de sagesse. Le Saint-Esprit donne des paroles de sagesse. Alors, qu'est-ce que ça peut être, ça? Qu'est-ce que c'est une parole de sagesse? Ah ben, une parole de sagesse, pour les hommes, c'est Job, un ancien patriarche du temps de Moïse, d'Abraham. C'est très ancien, l'histoire de Job, et il a écrit ceci. En Job 28:28, il a dit, la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. S'éloigner de Dieu, la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Donc, craindre Dieu, c'est la sagesse qui est pour nous. Mais la sagesse de Dieu, elle, les théologiens, ils la définissent ainsi, c'est la sagesse de Dieu, c'est les meilleurs moyens pour arriver aux meilleures fins. C'est-à-dire Dieu a les meilleurs objectifs possibles, les meilleures choses possibles, et la sagesse, c'est la façon d'arriver à ces meilleures choses possibles, la meilleure façon d'y arriver. Et donc Dieu utilise toujours la meilleure façon d'arriver aux meilleurs objectifs. Et comment se représenter ça? Vous avez peut-être envie des fois de faire des belles et de bonnes choses, mais comment faire pour y arriver? Souvent on se trompe, parce que les choses qu'on désire sont pas vraiment bonnes, et souvent on se trompe parce que la façon dont on veut y arriver, c'est pas la meilleure façon. Mais la sagesse de Dieu, c'est celle qui permet d'arriver aux meilleures choses par le meilleur moyen possible. Et donc c'est utile, hein. C'est les paroles de sagesse, donc ça va être très utile dans l'Église. Si quelqu'un qui a une parole de sagesse pour l'Église, ça va le conduire en sécurité. Et les responsables, ils ont besoin beaucoup de recevoir des paroles de sagesse de Dieu. Hein. Paroles de connaissance, il dit aussi l'apôtre. Alors c'est pas la connaissance j'avais donné moi la mécanique des fluides, ça vous dira rien du tout. Mais les connaissances qu'on peut avoir des choses techniques ou autres. Il s'agit ici de la parole de connaissance de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu souhaite? Qu'est-ce que Dieu veut? Quelle est sa volonté pour nous? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Comment le servir? Comment l'aimer? Etc. Toutes ces paroles de connaissance, ben, c'est important que nous les ayons, que le Saint-Esprit nous les donne. Parce qu'autrement, comment on ferait pour accomplir le commandement de Jésus qui a dit « Faites des disciples, baptisez-les et enseignez-les. » Si on n'a pas la connaissance, on ne pourra pas enseigner. Donc c'est indispensable qu'il y ait des paroles de connaissance aujourd'hui. Également la foi. Il y a des dons que le Saint-Esprit fait à certaines personnes, il va leur donner la foi. Alors c'est pas la foi qui va nous sauver. C'est pas la foi qui va servir à croire en Jésus pour être sauvé, mais c'est la foi qui rend des fois les choses humaines, on les voit comme impossibles, mais il va y avoir un frère ou une sœur qui va dire, qui va avoir la foi, non, c'est la volonté de Dieu, il va nous aider, il va être là et on va pouvoir y arriver grâce à lui, et il va encourager tout le monde. On a un exemple qui s'est passé ici dans notre église. Quand il fallait, on a les deux locaux, ça faisait beaucoup d'argent, beaucoup de cotisations pour payer les deux loyers. Et l'année dernière, on s'est dit peut-être ce serait sage d'arrêter avec le local pour les enfants parce que on n'a pas assez d'argent tous les mois. On dépense plus que ce qu'on a comme don. Alors, ça semble raisonnable comme décision, mais il y en a d'autres qui ont dit non, il faut avoir confiance au Seigneur. Il va pourvoir aux besoins pour son Église, pour ses enfants, c'est sa volonté. Et donc, on a gardé le local. Et il y a eu ces personnes qui ont eu cette foi qui vient de Dieu, qui est un don du Saint-Esprit et qui a permis de garder le local. Et cette année, on a gardé le local. Donc, on avait pris la décision tous ensemble de garder le local. Et donc, cette année, on a eu un bénéfice. Au lieu d'avoir qui manque de l'argent, on a eu un bénéfice de l'argent en plus en ayant gardé le local. Dieu a agi, il a honoré cette foi, et donc qui est un don du Saint-Esprit. Avoir une foi comme ça, c'est un don du Saint-Esprit, et donc c'est très 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 indispensable. Si d'un côté il y a la sagesse, de l'autre il y a la connaissance, et puis il y a la foi, toutes ces choses ensemble vont pouvoir faire de grandes choses. Et chacun a une des choses, des personnes différentes. Après, les questions du don de guérison. Alors, peut-être que vous avez vu à Figeac, j'avais eu personne qui soit une personne qui guérisse les personnes comme ça, qui est le don de guérison. Bon, je dois dire qu'on le recherche pas à Figeac, ben parce que moi, personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup d'autres moyens d'être guéri autour de nous. C'est vrai qu'on a un très bon système de santé. Et puis il y a plein de guérisseurs autour de nous qui promettent eux aussi la guérison. Et donc je pense pas que ce don il nous soit ici à Figeac particulièrement utile, mais il y a des régions dans le monde où c'est très utile la guérison, hein, parce que les personnes n'ont, quand elles sont malades, elles n'ont personne à qui se tourner. Et donc c'est bon que Dieu intervienne, qu'il donne à ces personnes-là le pouvoir de guérir. Mais il me semble qu'ici à Figeac, en tout cas dans la situation dans laquelle on vit, il me semble que c'est un don qui n'est pas le plus utile, celui dont on a le plus besoin, en tout cas nous dans notre situation. Mais il est possible que Dieu fasse des dons comme ça s'il le juge bon. Et ce sera à nous de discerner, est-ce que c'est vraiment un don qui vient de Dieu, ou est-ce que c'est un guérisseur qui est là et qui fait ses formules magiques. Alors voilà, il faut du discernement, comme on dit, hein. Le don d'opérer des miracles, c'est un petit peu pareil, mais peut-être on est frileux, peut-être le Saint-Esprit veut vraiment faire des choses, et puis on est là, on a peur qu'il se manifeste de façon spectaculaire comme ça. Peut-être c'est le cas. Les questions de notre don après de prophétie. Les prophètes, quand on est un prophète, on parle de la part de Dieu. Alors ça, c'est très important d'après l'apôtre. Au chapitre 14, il revient là-dessus. Donc on en parlera plus tard, nous autres, parce que c'est quelque chose qui est, que l'apôtre a beaucoup de soins. Donc on en parlera plus tard. Le discernement des esprits. Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre ennemi, il veut faire des contrefaçons de l'action du Saint-Esprit, et donc lui aussi, il peut faire des guérisons. Et on a plein de guérisseurs, des gens qui, voilà, t'as une brûlure, tu vas le voir, il va te mettre ta main, il va ou appelle-le simplement au téléphone, et puis il va te guérir, tu vas être soulagé. Il y en a plein. Et donc, il va falloir discerner, mais est-ce que ça, c'est l'Esprit de Dieu? Ou est-ce que c'est l'esprit de l'ennemi de Dieu? Et c'est pas toujours facile. Et donc Dieu donne, le Saint-Esprit donne à certaines personnes la capacité de reconnaître comme ça. Mais ça, il me semble, ça peut pas venir de Dieu pour telle et telle raison. Donc ce sont des choses qui sont importantes. Et l'apôtre, il parle également de la diversité des langues. Alors là, ça se rapporte ça au livre des Actes. Parler des merveilles de Dieu. Et donc, vous connaissez ce qui s'est passé à la Pentecôte. On va également reparler plus tard au chapitre 14. L'apôtre revient là-dessus. Ce qui s'est passé à la Pentecôte, c'est qu'il y avait des gens qui étaient des apôtres, et les disciples étaient là, et ils ont reçu le Saint-Esprit, et ils se sont mis à parler dans des langues étrangères, des langues qu'ils n'avaient pas apprises. Et il y avait des personnes qui étaient là, venues pour la fête de Pentecôte, qui venaient des quatre coins de l'Empire romain, et qui ont entendu ces langues, mais ils se sont dit, mais cela, ils parlent dans la langue de chez moi. Et je les entends dire des merveilles de Dieu, et ça les a beaucoup interloqués, et tous, ils sont venus, ils se sont approchés de ce groupe de personnes. Et là, après, Pierre a pris la parole et a annoncé Jésus. Donc, c'est ce phénomène des langues. Alors, on en parlera plus tard. L'interprétation des langues dans l'église, si quelqu'un parle dans une langue que personne ne comprend, bien sûr, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de traduire. Et donc, dans les temps apostoliques, il y avait aussi des personnes qui étaient là capables de traduire les langues. Et l'apôtre en reparle de ça aussi. Et bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, c'est pas une liste qui est terminée. Et il y a d'autres dons, quand on poursuit la lecture du chapitre et ailleurs dans la Bible, d'autres dons spirituels que Dieu donne à son Église et qui manifestent que Dieu est là, Dieu est au milieu de ces gens. Et ce ne sont pas un Dieu qui est loin, qui est absent, qui est comme Baal, qui est parti en voyage. Non, c'est un Dieu qui est vivant et qui est au milieu de ses enfants et qui leur donne ce dont ils ont besoin pour remplir la mission qu'il leur confie. Et verset 11, le dernier verset, donc, le verset 11 dit ceci, donc, on va passer. Je vais relire les derniers versets. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous, et il donne la liste qu'on vient de voir. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit, à les distribuer à chacun, à particulier, comme il le veut. Donc, les dons spirituels, ce sont des dons qui viennent du Saint-Esprit et qui sont des cadeaux, c'est gratuit. C'est Dieu qui, c'est le Saint-Esprit qui dit, qui donne à chacun, il distribue en quelque sorte comme il veut. Et donc c'est pas un mérite qu'on reçoit, non, c'est quelque chose qu'on reçoit de Dieu et comme un don. Alors peut-être se dit, mais moi quel est mon don? C'est pas parce qu'on connaît pas son don qu'on en a pas reçu, hein. Et des fois, nous-mêmes, on ne sait pas qu'on a reçu un don, mais notre frère et notre sœur qui nous connaît, lui, il sait quel don on a reçu, quel don le Saint-Esprit nous a fait. Et puis, bien sûr, des fois, il faut être patient. Par exemple, le don pour enseigner, qui est un don spirituel, pour enseigner les choses du Seigneur, on ne peut pas enseigner les choses du Seigneur avant soi-même de les connaître. Donc, des fois, il faut attendre et on voit que plus tard, quel est le don qu'on a reçu. Quel est mon don? Je n'ai pas de don, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas enfant de Dieu? Non. Rapidement, on l'a vu. Hein. Personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Et si donc on est capable de dire Jésus-Christ est le Seigneur, c'est le vrai Seigneur, c'est lui qui est vivant, c'est lui que je veux servir, que je veux suivre, que je veux obéir. Donc ça, c'est un témoignage qu'on apporte souvent au moment du baptême. Et donc, c'est ça qui fait que on est enfant de Dieu. C'est pas le don qu'on reçoit, mais c'est le témoignage que l'on rend par le Saint-Esprit qui est en nous. Et ce qui fait qu'un enfant de Dieu est enfant de Dieu, c'est qu'il a le Saint-Esprit en lui. C'est pas parce que il pense qu'il n'a pas de don, que pour autant, il n'est pas enfant de Dieu. Et donc, on n'est pas encore arrivé à la fin de notre enseignement. Peut-être quelqu'un dira, moi je ne désire pas avoir de don. Vous savez, à Noël, des fois on reçoit des cadeaux, et puis ces cadeaux, oh là là, qu'est-ce que je vais faire avec, on me l'a donné, ça correspond pas à ce que j'aime. Et puis des fois, il y en a maintenant, il paraît que ça se fait beaucoup. On va remettre ça sur eBay, on va essayer de le revendre. Enfin bon, bref, c'est pas un cadeau de Noël. Hein. C'est un don que le Dieu Très-Haut fait. Hein. C'est une grâce. C'est le mot don ici, c'est charis. C'est une grâce. C'est quelque chose qui est précieux, qui est bon, qui est utile pour mes frères et sœurs et pour toute pour l'humanité en général. Hein. Si Dieu donne des choses, ce sont de bonnes choses, des choses qui sont utiles. Et on n'est pas encore à la fin de l'enseignement, mais quoique je ne sois pas prophète, à la fin de l'enseignement, normalement, on va voir que oui, bon, Je disais que je voulais pas de don, mais je vois que ces dons-là, vraiment, j'en ai besoin. Moi aussi, et je voudrais en avoir un. Alors, Dieu veut manifester, donc, en conclusion, sa présence au milieu de ses enfants. Il veut équiper son Église pour qu'elle puisse accomplir les commandements de faire avancer le royaume de Jésus. Et donc, le Saint-Esprit donne des dons pour le bien commun et qui sont variés et qu'il accorde à chacun comme il le souhaite. Il distribue cela comme il le souhaite. Et donc, on verra la suite la semaine prochaine. On va s'arrêter là. On va chanter, j'ai parlé un chant qui est le 424, nous croyons. Je vais prier. Seigneur, merci pour la patience de mes auditeurs, Seigneur. Merci pour que cela puisse être utile, agréable et bon. Dans le nom de Jésus. Amen.